Les infos avec Hélène Roussel. Bonjour Hélène.
Bonjour. Hagard, affamé, désarmé, Valentin Marconne, auteur d'un double meurtre, s'est rendu hier soir aux gendarmes. Après plus de trois jours de traque dantesque dans la forêt des Cévennes, nous sommes sur place dès le début du journal. Une manifestation pro-palestinienne interdite cet après-midi à Paris. Les organisateurs maintiennent le mot d'ordre. Et les bombes qui pleuvent encore sur Gaza, 10 personnes d'une même famille ont tué ce matin. Et puis aussi Tokyo avec le Covid, la fronde anti-JO, les régionales comme un air de présidentiel dans les Hauts-de-France. Niharo Woxing, c'est du chinois. Bonjour Mars en français, les Chinois dans les pas des Américains sur la planète rouge. Enfin, un peu de swing dans notre esprit sport ce matin. Golfez, vous allez respirer.
Et puis à 8h20, notre invité, ce sera le politologue Dominique Régnier, directeur général de la Fondation pour l'innovation politique. Avec lui, on va parler de la droite en France et aussi du christianisme à la faveur de son dernier livre, Le 21e siècle du christianisme, paru aux éditions du Cerf.
France Inter. Fin de cavale dans les Cévennes, fin d'une chasse à l'homme qui aura duré plus de trois jours et mobilisé des moyens considérables. Valentin Marconne, qui a tué son patron et un collègue mardi matin dans une scierie du petit village des Plantiers dans le Gard, s'est rendu hier soir aux alentours de 19h15. Il avait pris la fuite à pied dans la forêt, on le savait armé, on le disait dangereux. Maureen Suignard, vous êtes sur place, bonjour.
Bonjour.
C'est un homme affaibli que les gendarmes ont retrouvé.
C'est un homme, oui, fatigué, affamé, hagard, qui a donc fini par sortir de sa cache dans la forêt des Cévennes. Une cache faite de végétaux et qui se trouvait tout près du lieu du double meurtre, 5 kilomètres à peine de la Syrie où travaillait Valentin Marconne. En fait, les gendarmes concentraient leurs efforts de recherche sur cette zone précise, là où les chiens sentaient la présence du fugitif. Ils étaient persuadés qu'il n'avait pas quitté la zone et ils s'étaient convaincus que cette pression exercée par les forces de l'ordre allait pousser Valentin Marconne à se rendre. Il s'est présenté à la première patrouille qu'il a croisée, les mains en l'air, sans armes et en s'excusant.
On sait que les habitants des Plantiers ont vécu cloîtrés depuis tout ce temps, depuis mardi. On imagine, Maureen, le soulagement, l'émotion ce matin.
Oui, puisque les habitants vivaient dans l'angoisse depuis quatre jours avec des hélicoptères qui survolaient jour et nuit le village. Eux devaient se confiner ou se déplacer avec une voiture de la gendarmerie pour les escorter. Ce matin, plus de barrages routiers sur la route qui mène au village. Le village qui se réveille doucement après des scènes de soulagement hier au moment de l'arrestation. Le maire des Plantiers, Bernard Mounier, décrit ce moment où les habitants se retrouvent dans les rues, s'enlacent, pleurent aussi pour externaliser la peur qui s'éloigne enfin. Mais il est aussi attentif à la suite. Il craint de voir deux camps s'affronter dans le village. Celui du côté de l'homme qui a commis les méfaits et celui des victimes. L'œil pour l'œil n'a jamais fait que deux aveugles, prévient-il. De son côté, le maire de la commune de Saint-André de Valborne, commune limitrophe des Plantiers, assure que la cicatrice ne se refermera pas. Il ajoute, il ne faut pas oublier que ce monsieur a tué deux personnes de sang-froid. Et ça, je ne l'admets pas.
Une histoire qui va laisser des traces, on l'entend, dans un village traumatisé. Maureen Suignard, aux Plantiers dans le Gard. Merci à vous. Valentin Marconne, qui est donc en garde à vue ce matin pour assassinat.
Une adolescente de 17 ans poignardée par un jeune de 15 ans hier après-midi.
Ce n'est pas normal qu'un enfant vienne tuer un autre enfant. Les mots de la mère de la victime, Marjorie, 17 ans, tuée à coups de couteau au pied des immeubles en plein jour dans la cité Hoche d'Ivry. Elle aurait voulu prendre la défense de sa petite sœur, harcelée, aurait monté un groupe sur le réseau Snapchat contre l'adolescent. Un jeune de 15 ans, donc connu des services de police, interpellé peu de temps après chez sa mère dans l'Essonne. Plusieurs collectifs pro-palestiniens appellent à manifester aujourd'hui un peu partout en France. Manifestation interdite à Paris par le gouvernement qui craint des affrontements, des violences antisémites comme en 2014. Le tribunal saisi par les organisateurs à son tour a dit non hier, mais les associations vont déposer un recours devant le Conseil d'État et donnent rendez-vous quoi qu'il arrive à 15h à Barbès. Walid Attala, membre de l'association des Palestiniens d'Île-de-France, déterminé au téléphone de Rémi Brancato.
Nous jugeons insupportable cette interdiction complètement infondée. Les arguments de l'interdiction sont basés sur des faits qui datent de 2014. Il n'y a pas encore eu de manifestation que le ministre de l'Intérieur préjuge qu'il va y avoir des affrontements. Comme d'habitude, on prévoit un service d'ordre, des personnes avec un brassard pour empêcher des gens de l'extérieur d'attaquer le cortège ou de provoquer vers l'extérieur. À Gaza, j'ai de la famille qui subit ces bombardements. Nous, ce qu'on veut en tant que Palestiniens, c'est recouvrer nos droits nationaux, nos droits légitimes. On ne demande rien d'autre.
Mais c'est ces rassemblements pro-palestiniens n'effraient pas que les autorités. Francis Khalifa, président du Conseil représentatif des institutions juives de France.
Il y a une véritable volonté des manifestants de transposer le conflit qui se passe aujourd'hui entre un État démocratique et un groupe terroriste qui est le Hamas. C'est une volonté aussi de venir faire de la casse à Paris et plus précisément d'aller viser les Juifs à Paris, parce que dans ces manifestations, et nous le savons, c'est toujours l'expression de la haine des Juifs et de la haine d'Israël, et c'est en cela, bien évidemment, que nous sommes très inquiets.
Francis Khalifa du CRIF avec Julien Langlais. Pendant ce temps, les bombes continuent de pleuvoir. L'aviation israélienne a encore pilonné Gaza cette nuit. 10 personnes d'une même famille ont été tuées, des milliers d'autres réfugiés dans des bâtiments de l'ONU. Israël vise aussi les tunnels du Hamas, considérés comme des sites de lancement de roquettes. Plus de 2000 depuis lundi. Dernier bilan, plus de 130 morts, essentiellement côté palestinien. Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit demain dimanche. L'émissaire américain, quant à lui, vient d'arriver sur place. Israël sur plusieurs fronts, car voici la Cisjordanie. Manifestation de Palestiniens hier, l'armée a tiré à balles réelles, 11 morts, des dizaines de blessés. On n'avait pas vu ça depuis la deuxième intifada il y a près de 20 ans. Aujourd'hui, 15 mai, une célébration sous haute tension, celle de la Nakba, la catastrophe en arabe. Les Palestiniens commémorent l'expulsion forcée de milliers d'entre eux au moment de la création d'Israël en 1948. Reportage à Ramallah, Alice Froussard.
Le 15 mai 1948, comme plus de 750 000 Palestiniens, les grands-parents de Diala, palestinienne de Jérusalem, ont dû quitter leur maison à Barkousia, expulsés de force.
Notre village a subi un nettoyage ethnique par les Israéliens à Hébron, donc ils ont dû déménager à Jérusalem. Donc chaque année, on va manifester dans la rue, au checkpoint, afin d'exprimer notre colère, montrer notre oppression dans laquelle on vit depuis des années.
Contrairement aux Israéliens dans la même ville, le statut résidentiel de Diala qui lui permet de vivre à Jérusalem est révocable. Elle peut le perdre si elle déménage à l'étranger ou si elle habite en Cisjordanie occupée.
As a Jerusalemite, we face different kinds of oppression.
En tant que Palestinienne de Jérusalem-Est, on subit différents types d'oppression, différents types de lois inégales, juste car on est Palestinien. Nous n'en pouvons plus de cet apartheid. C'est une violence systématique, un racisme systématique contre les Palestiniens et on devrait tous se lever, tous le condamner.
Contrairement à Diala, les réfugiés palestiniens de Cisjordanie occupée, de Gaza, du Liban, n'ont pas la possibilité de retourner dans leur village, ni même d'y entrer. Ramallah, Alice Froussard, France Inter.
Et une question à présent dans ce journal. Y aura Il des Jeux Olympiques à Tokyo cet été. Il faut dire que le Covid vient tout bousculer.
Plus que 70 jours avant le coup d'envoi, mais le Japon est toujours en état d'urgence. Beaucoup sur place estiment que les conditions ne sont pas réunies. Une pétition anti-JO a réuni plus de 350 000 signatures. Le personnel médical en première ligne. Reportage notre correspondante Karine Nishimura.
C'est un hôpital privé en banlieue de Tokyo, à 10 minutes à pied de la gare Tachikawa. Depuis une dizaine de jours, ses fenêtres sont couvertes d'un message. Secteur médical à bout, renoncer aux Jeux Olympiques. Jun Ito, infectiologue.
On a affiché ce message parce que vu la situation, on doute que les JO puissent se tenir. On ne peut pas dépêcher du personnel médical comme l'exige le gouvernement. Ça fait un an qu'on se bat contre le coronavirus. On manque déjà de moyens et on nous demande de fournir des soignants pour les JO. C'est impossible. On n'en est plus au stade de la colère, mais à celui du désespoir. On n'attend plus rien des autorités.
Même sans public en provenance de l'étranger, les Jeux Olympiques et Paralympiques draineront de l'extérieur entre 70 000 et 90 000 athlètes, accompagnateurs ou journalistes. Un brassage qui fait craindre un regain épidémique, comme l'explique Motoshi Masuko, un des responsables de cet hôpital.
Si le gouvernement pouvait garantir sur des bases scientifiques que ces JO peuvent se tenir en toute sécurité, ok, mais c'est la méthode Koué. Avec un tel discours, on ne peut pas être rassuré.
Des syndicats de médecins et infirmières exigent aussi l'annulation des JO. Tokyo, Karine Nishimura pour France Inter.
Le Covid en décru en France, moins de 4400 patients en soins critiques, 600 000 vaccinations aussi. Hier, le ministre de la Santé, Olivier Véran, annonce sur Twitter que le cap visé des 20 millions de Français ayant reçu au moins une dose sera atteint ce samedi.
Trois nouveaux ministres en renfort pour les régionales, ça se passe dans les Hauts-de-France.
La Macronie sort l'artillerie lourde. Après le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, voici donc Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, Agnès Pannier-Runacher, ministre chargée de l'Industrie, Alain Griset, ministre des Petites et Moyennes Entreprises. Tous candidats sur la liste de la REM, emmenés par le secrétaire d'État chargé des Retraites, Laurent Pietraszewski, une manière de venir troubler le duel annoncé entre Xavier Bertrand et le Rassemblement National. Une élection élections régionales, Élodie Forêt, qui ressemble de plus en plus à l'acte 1 de la présidentielle.
En officialisant en mars sa candidature à la présidentielle, Xavier Bertrand, le premier, a nationalisé la campagne régionale, faisant de cette élection son purgatoire, tremplin en cas de victoire, fin de sa carrière politique en cas de défaite. La tentation est donc grande du côté de l'exécutif de le fragiliser, d'où l'arrivée sur la liste de plusieurs ministres pour épauler le méconnu Laurent Pietraszewski. Objectif terminé assez haut pour se maintenir au second tour et contraindre, tel un baiser de la mort, Xavier Bertrand a négocié pour faire barrage au RN, qui de son côté ne s'en cache pas non plus. C'est le dernier arrêt au stand avant la présidentielle, dit le numéro 2 Jordan Bardella. Et si Marine Le Pen n'est pas tête de liste, elle est en revanche bien en campagne. Sa photo en évidence sur le tourbus de Sébastien Chenu. Marine Le Pen contre qui en 2015 la gauche s'était désistée. Une gauche cette fois menée par Karima Deli et qui à un an des présidentielles a déjà prévenu l'histoire ne se répétera pas.
Élodie Forêt, le mariage dans la douleur, mais c'est fait, c'est acté. Suez et Veolia, les deux géants de l'eau et des déchets, ont signé un accord définitif hier soir après des mois et des mois de tractations. Veolia avale une bonne partie de Suez pour près de 13 milliards d'euros. Un grand pas pour la Chine, un exploit, n'ayons pas peur des mots. Cette nuit, Pékin a réussi à poser un petit robot téléguidé à la surface de Mars, un petit rover sur le sol de la planète rouge. En chinois, on l'appelle la planète de feu. Un engin made in China, donc, qui va pouvoir, comme les Américains, alimenter la recherche scientifique. Olivier Aymon.
C'est dans un coin d'une vaste plaine nommée Utopia Planitia que Tsurong, le véhicule à roues qui porte le nom d'un dieu du feu de la mythologie chinoise, s'est correctement posé après de longues minutes de descente dans l'atmosphère ténue de Mars. Doté de batteries et de panneaux solaires, le rover pesant plus de 200 kg va désormais pouvoir explorer la zone avec ses 6 instruments de bord, caméras optiques et lasers, radars, spectromètres, stations météo. Objectif, tenter de trouver des traces de glace d'eau dans cette zone qui pourrait avoir accueilli, dans des temps reculés, un lac ou un océan. La mission est prévue pour durer 3 mois, un temps assez court, mais qui marquera à jamais l'histoire spatiale. La Chine est désormais le seul pays, avec les États-Unis, à avoir réussi à déposer sans encombre un tel engin sur le sol martien.
Et même en un temps record, hein, puisque la Chine avait réussi à placer une sonde en orbite en février seulement. Cette fois, un atterrisseur sur Mars et un robot, 3 opérations en une seule mission. Même ça, les Américains ne l'avaient pas fait. C'est une première mondiale.
Et on va revenir sur Terre et même sur les terrains de sport.
Avec du handball, filiale de Coupe de France classique chez les hommes, Montpellier PSG à 20h45, beaucoup moins chez les femmes. Brest, le leader face au club qui monte. Nantes Atlantique Handball, coup d'envoi 16h10 tout à l'heure. Le sport, c'est aussi la santé. La preuve avec cette initiative pour les personnes qui souffrent de pathologies pulmonaires chroniques. Un tour de France du golf, c'est notre esprit sport ce matin avec celle qui sait décidément tout faire, lire, écrire des livres et nous parler de golf. Bonjour Laetitia Bernard.
Bonjour.
Golfer, c'est respirer, idée portée par l'Association Santé Respiratoire France.
Et ça commence à Nancy ce week-end, effectivement. Alors, vous ne connaissez peut-être pas forcément le nom de pathologie telle que la BPCO, bronchopneumopathie chronique obstructive. Cette maladie, elle touche près de 3,5 millions de personnes. Elle peut être mortelle aussi, 18 000 décès par an. On pense aussi désormais à certaines séquelles post-Covid. Eh bien, l'Association Santé Respiratoire France donc et Second Souffle ont décidé de s'unir, d'organiser un parcours à travers la France pour sensibiliser sur les bienfaits d'une pratique sportive comme le golf, d'abord pour le grand air, la chlorophylle, l'oxygène, mais pas seulement, comme l'explique Patrice Canu, qui porte le projet.
Si on part en rando, en vélo, si on court dans un petit club qui prépare un marathon, on est obligé de suivre le groupe. Alors que lorsqu'on est sur un parcours de golf, même avant même d'y être, on peut très bien passer plusieurs heures véritablement à son rythme. Donc c'est extrêmement adapté à des insuffisants respiratoires, parce que chacun va imprégner au niveau de son rythme cardiovasculaire le rythme qu'il est capable d'assumer.
Alors concrètement, sur chaque étape, eh bien, des pneumologues, des kinés du sport et bien sûr des golfeurs sont réunis avec en général une compétition au profit de l'association et surtout des sessions de golf offertes aux patients et à leurs proches. Patrice Canu, lui, il vit avec une BPCO depuis 19 ans. Il dit très clairement que le golf l'a sauvé aussi bien psychologiquement que physiquement et son rôle de patient témoin, il y tient énormément.
J'ai dans ma vie piloté des grands projets industriels, j'ai dirigé des groupes importants. Si vous me dites aujourd'hui quelle était la vraie vocation de ta vie, c'est vraiment ce que je fais en ce moment. Parce que quand on arrive à décrocher le sourire d'une épouse qui accompagne son mari, insuffisant respiratoire depuis plusieurs années, quand vous avez une gamine qui a l'âge de ce qu'avaient mes enfants quand ça m'est arrivé il y a 19 ans et qui comprend en regardant que son papa il va vivre longtemps, objectivement, ça vaut tous les bonus de la planète.
Alors c'est déjà la troisième édition de l'opération et elle prend de l'ampleur, davantage de participants chaque année et de plus en plus de ligues de golf qui contactent Santé Respiratoire France ou Second Souffle pour proposer de les recevoir. Nantes, Vittel, il y a de nombreux rendez-vous dans les prochains mois un peu partout en France pour ces week-ends donc qui sont appelés Respirer Golf.
Allez tous sur le green. Merci Laetitia Bernard.
C'était le journal d'Hélène Roussel. Le temps.